C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous,
bonsoir,
Jean-Marie.
Bonsoir, Roselyne. Bonsoir.
Alors, est-ce la fin du calvaire ou le début des ennuis? Après des jours et des jours de consultations, le Premier ministre Michel Barnier cherche à faire rentrer un cube dans un rond. En clair, former un gouvernement pour lequel personne ne semble d'accord. Trop de personnalités de droite pour les uns, trop d'incertitudes pour les autres, notamment sur les impôts. Le flou entretenu par un Premier ministre qui sait être la planche de salut, compte bien jouer sa partition en renvoyant au piquet les jeunes loups qui tapent du pied. Cet après-midi, une réunion à Matignon a lieu entre Michel Barnier et la droite et le centre. Va-t-elle être décisive dès ce soir ou demain? Mystère. L'Élysée affirme aux journalistes que la fumée blanche ne va pas tarder, mais on nous a déjà fait le coup. Alors, pour en parler avec nous, Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche, bonsoir à vous.
Bonsoir, Roselyne.
Carole Barjon, éditorialiste, bonsoir Carole.
Bonsoir Roselyne.
Et Henri Vernet, bonsoir Henri.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France. Et en fin d'émission, Véronique Reissoul pour sa chronique « La politique sur les réseaux ». Alors, Bruno, vous êtes toujours le journaliste le plus informé de Paris. Donc, évidemment, je me tourne vers vous.
Et Marseille.
il se passe quoi, là? Est-ce que c'est ce week-end ou jamais?
Oui, c'est ce week-end ou jamais, probablement. C'est la bonne formule. C'est-à-dire que cette réunion qui est un peu l'ultime ronde de négociation ou de consultation du Premier ministre avec les partis qui... Le Premier ministre essaie de constituer une majorité relative. Ça ne s'est jamais construit. D'habitude, on avait des majorités absolues. Maintenant, il faut construire des majorités relatives. Donc le Premier ministre fait une dernière consultation. Il va mettre un peu tout le monde au pied du mur. Les susceptibilités sont à fleur de peau. Tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se fâche depuis 14 jours. C'est très long. Et c'est un peu la dernière réunion pour aboutir demain à un gouvernement où, comme me l'a dit à la mi-journée un des ténors de LR, ce sera demain ou jamais. Et quand il dit jamais, ça veut dire que le Premier ministre, effectivement, a été, ces dernières heures, à deux doigts de jeter, jeter l'éponge, tant la situation est extrêmement compliquée. Et évidemment, dès qu'il faut commencer à rentrer dans le dur, c'est souvent difficile. Donc, demain ou jamais, avec, si ça marche, le gouvernement, dans la foulée, les passations de pouvoir. L'idée étant de faire ça avant l'ouverture des journées du patrimoine, parce que dans les ministères, ce week-end, il y aura des Français, mais ça ne sera pas facile de faire des passations de pouvoir. Donc, c'est demain soir ou peut-être jamais.
Alors, vous parliez des accords des uns et des autres. On a vu Gérald Darmanin sortir la bombinette hier sur le fait qu'il ne participerait pas au gouvernement s'il y avait une augmentation des impôts. Et il a lancé cette menace. On l'écoute.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l'Assemblée nationale, puisque je vais redevenir député, un gouvernement qui augmente les impôts. Ça fait 7 ans que nous baissons les impôts. C'est la facilité d'augmenter les impôts.
Voilà, et je vous laisse écouter la réaction d'Olivier Marleix, le Républicain.
Oui, l'idée d'augmenter les impôts, c'est une rumeur lancée par M. Darmanin pour permettre à M. Darmanin de la commenter. Voilà. Matignon a dit très clairement que tout ça relevait de la rumeur et de pure spéculation.
Voilà, tout ça, manipulation, chacun lance des rumeurs, Jean-Marie.
Oui, c'est le petit jeu aujourd'hui.
Vous avez l'air atterré.
Oui, parce que c'est vraiment une caricature là, à laquelle on assiste. Mais en même temps, il faut reconnaître la difficulté de l'exercice, parce qu'il y a quand même 11 groupes à l'Assemblée nationale. Et dans ces 11 groupes, comment faire surgir une majorité relative de cela? C'est vraiment un imbroglio terrible. Et alors, il y a ces positionnements des uns et des autres, le positionnement d'Darmanin, on pourrait analyser aussi le positionnement, et on y viendra peut-être, de Gabriel Attal, et ainsi de suite. Donc, les ambitions personnelles. Mais il y a aussi les questions de fond. Et sur les questions de fond, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et sur le qu'est-ce qu'on fait vient en premier lieu le budget. Le budget, c'est-à-dire la lecture que vont avoir les principaux, ceux qui regardent la France, c'est-à-dire les marchés, avant Bruxelles d'ailleurs, pour savoir si la trajectoire financière de la France tient la route ou non. Et donc là, le gouvernement jouera aussi sa peau là-dessus, parce que si l'interprétation qui est donnée des mesures qu'il envisage sur le fond n'est pas bonne, il peut y avoir un cataclysme financier compte tenu de la gravité de la situation. Ce qui est assez choquant dans la période actuelle, c'est de voir que, je prends juste l'exemple que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire sur une éventuelle augmentation des impôts. Voilà une majorité sortante qui devrait être comptable de l'État d'après Barnier, catastrophique des finances publiques. C'est leur héritage. Et face à cet héritage, il dit eh ben, on ne touche pas à nos promesses. Non. Mais c'est intenable, ça ne peut pas tenir un seul instant. Il faudra bien regarder, pas seulement la diminution des dépenses, mais aussi un petit peu l'augmentation des recettes, sinon on ne s'en sort pas. Et ils sont là à aligner des lignes rouges qui vont rendre la tâche impossible au Premier ministre. Oui. On se pince, parce que franchement, qui était au pouvoir pendant toutes ces années ? Ceux-là même qui érigent des lignes rouges aujourd'hui. Oui. Ça n'a pas de sens. C'est du moins le sens de l'irresponsabilité, pour moi, avérée.
Oui, mais on pourrait rétorquer aussi, Henri, que Gabriel Attal, est-ce que c'est pas illégitime, n'est-ce pas légitime, dans le fond, qu'il demande, pour faire participer son groupe au gouvernement, de savoir où il va. Or, on a l'impression quand même que Michel Barnier entretient un flou artistique. En tout cas, il joue de l'incertitude. Il ne dit rien.
Mais est-ce que lui-même est aussi fixé que ça sur le programme, sur à quoi ressemblera son action une fois au gouvernement ? Ben, il faudrait, oui et non. Il est quand même sorti du chapeau un peu au dernier moment. Bien sûr, maintenant, on s'est habitué dans le paysage parce que ça fait 14 jours et que ça paraît assez long, en effet, quand on attend un gouvernement. Cela dit, on a attendu un Premier ministre pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et puis d'autres pays autour de nous ont l'habitude de passer des centaines de jours sans gouvernement. Je pense à la Belgique, dans une certaine
mesure. Oui, vous faites votre édito là-dessus, d'ailleurs.
Qu'il faut se souvenir. Là, c'est vraiment une parenthèse. Mais c'est une parenthèse. Mais on a tellement à la bouche depuis 4 mois désormais, qu'on apprend un peu la démocratie parlementaire, le régime parlementaire et les coalitions comme cela se passe dans la plupart des pays européens, que bah oui, c'est pas inutile justement de regarder bel et bien comment ça se passe dans ces pays-là. C'est vrai que ça prend du temps, parce qu'en effet, vous devez concilier des inconciliables. Là, c'est un peu moins le cas, parce que les inconciliables, en réalité, Darmanin, il a beau faire sa sortie, Attal a beau faire la sienne aussi, par rapport donc à la ligne rouge des impôts, en réalité, c'est pas très différent de ce que, alors peut-être pas de ce qu'ils ont accompli pendant 7 ans, c'est vrai qu'il y a eu vraiment une politique de l'offre en faveur des entreprises, c'est vrai qu'il y a eu ce totem des baisses d'impôts chez Emmanuel Macron, mais enfin, Darmanin lui-même, il y a quelques mois, envisager de durcir un petit peu la fiscalité en demandant un effort aux chefs d'entreprise. Parce qu'il sait très bien que la situation actuelle, comme l'a rappelé Jean-Marie à l'instant, n'est pas vraiment tenable. Gabriel Attal lui-même a aussi brandi cette possibilité un jour ou l'autre, qu'il faudrait qu'il n'y avait plus de débat tabou et notamment pas sur la fiscalité. Donc là, on est davantage dans la posture politique, dans le théâtre d'ombre politique, qui n'a rien d'illégitime, c'est comme ça, davantage que dans des convictions vraiment assumées. En réalité, ce que cherchent Attal et Darmanin, qui sont par ailleurs les premiers rivaux entre eux, c'est d'assurer les positions pour les mois qui vont venir.
Il y a une alliance objective, effectivement, de Darmanin. On les voit se réconcilier, on sait qu'ils ne s'entendent pas.
Oui, sur le dos de Barnier. Oui. Je voudrais juste revenir là sur votre question qui était, est-ce que ça n'est pas légitime, au fond, que des chefs de parti ou de groupe demandent
à quoi
on s'engage sur le fond. Non, c'est parfaitement légitime. Le problème, c'est que ce serait beaucoup plus crédible s'ils n'avaient pas auparavant, c'est-à-dire il y a déjà plus de 10 jours, en tout cas au lendemain de la nomination de Barnier, s'il n'avait pas fait, et je pense notamment au communiqué qu'avait fait le groupe Ensemble ou le Parti Renaissance, je ne sais plus, mais enfin c'était Attal, quoi, qui était un communiqué extrêmement dur, où il disait déjà par avance que leur soutien n'était pas acquis, qu'ils ne savaient pas s'ils voteraient ou non la censure. Donc, si vous voulez, d'entrée, ça a été assez agressif à l'égard de Michel Barnier. Maintenant, effectivement, on habille ça d'une raison qui est beaucoup plus légitime, c'est-à-dire on peut pas nous demander.
Il y a quand même des arrière-pensées
si on
derrière.
Ne sait pas sur quoi elle repose.
Mettons-nous à 2 secondes à la place du malheureux Premier ministre. Je dis malheureux pour le moment.
Oui.
Il a affaire à une cohabitation de facto avec le président de la République. Le président de la République ne manque pas une occasion de tracer des limites. Exemple, la nomination d'un commissaire à Bruxelles.
On va en parler.
Il montre bien la façon dont Emmanuel Macron veut préserver son territoire. Mais en même temps, il y a une cohabitation, on en parlait récemment, autrement plus difficile pour Michel Barnier, qui est la cohabitation avec le président du groupe principal de l'ex-majorité, Gabriel Attal, à l'Assemblée nationale. Et Gabriel Attal qui dit, je n'attaque pas le président de la République parce que j'ai conscience qu'il faut consolider les institutions. Donc il faut avoir la foi dans les institutions. Et deux lignes plus tard, il dit « Ah ben la règle du jeu a changé. Maintenant, c'est le Parlement décide, le Premier ministre exécute. » Ce qui est une révolution institutionnelle, pour le coup.
Bon, c'est une provocation.
C'est pas une provocation.
C'est une provocation.
C'est sans doute ce qu'il a en tête.
Mais ça ne peut pas se passer comme ça.
Oui. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut être que l'élaboration d'un compromis entre Matignon et les présidents de groupe.
C'est forcément inacceptable.
Mais ça traduit un état d'esprit qui est un esprit, comme vous le disiez tout à l'heure, agressif.
Alors, on va écouter François Hollande sur cette situation, et notamment sur Emmanuel Macron.
Je pense qu'à un moment, s'il n'y arrive pas, ce serait grave pour le pays, parce que c'est lui qui a pris cette responsabilité, c'est lui qui a choisi M. Barnier. Donc maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout.
Quel est, Bruno, dans le fond, le rôle de Macron en ce moment, dans cette tragicomédie ? Certains disent que Michel Barnier est arrivé avec une liste de noms de LR et qu'il a dit « Non, attendez, là, il y a trop de LR. En gros, refaites votre copie. » Est-ce que ça s'est passé comme ou au contraire, Barnier sait, je disais tout à l'heure, il sait que Macron ne peut pas se passer de lui, en quelque sorte, sinon c'est lui ou le chaos.
Alors d'abord, c'est les institutions. Il choisit des personnalités pour rentrer dans un gouvernement et c'est le président qui ensuite nomme ce gouvernement. Il est arrivé avec une liste, En gros, Michel Barnier veut nommer, on parle de 39 ministres et secrétaires d'État. Il est arrivé avec une liste. Alors après, l'interprétation qui est faite de cette liste est différente. Et l'entourage du président qui dit il y avait 9 ministres LR sur 14 ministres de plein exercice. Donc effectivement, ça marquerait une domination importante d'LR, une sorte de braquage politique pour un groupe qui pèse 47 députés à l'Assemblée nationale. Renaissance, c'est deux fois plus quand même. Et puis il y a ceux qui disent, dans l'entourage de Michel Barnier, qui disent « Mais non, pas du tout, sur les 39, c'est 9 sur les 39, une dizaine sur les 39, c'est-à-dire un quart. » Donc c'est pas tout à fait pareil. Si on compte les secrétaires d'État et tout ça, bon, ça change un peu. La vérité, c'est que, oui, le président... en fait, le président, il bloque surtout sur le domaine réservé. Entre le président et le Premier ministre aujourd'hui, qui est classique de toutes les cohabitations, pour le coup, qu'elles soient soft, hard, comme on veut, là, ça bloque un peu... Sur la question du ministre des Affaires étrangères.
Quoi, il veut mettre son grain de sel, Barnier ?
C'est-à-dire que Michel Barnier a été ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier a été commissaire européen, et Michel Barnier veut aussi s'occuper des affaires
internationales. Il a dit que c'était un domaine partagé, réservé, ce qui n'est pas
Michel
fou.
Michel Barnier, surtout, il n'a pas aimé la mauvaise manière que lui a fait le président, puisqu'en gros, il a été mis devant le fait accompli pour...
Thierry Breton.
Pour Thierry Breton et le successeur de Thierry Breton. Ouais. Et donc, ça a crispé les relations entre les deux en début de... le week-end dernier. Mais... Et ça, c'est un élément psychologique important.
Non, mais c'est vrai.
Et chacun a son nom pour être ministre des Affaires étrangères, la vérité. C'est que d'un côté, vous avez Michel Barnier qui défend un nom, et puis le président qui, lui, aimerait...
c'est bien parti, cette affaire.
...une autre personne. Donc, sur le ministre des Affaires étrangères, je pense que ça coince. Mais à mon avis, ça va quand même se régler, parce qu'ils n'ont pas le choix sur ces questions-là.
Carole, et après...
Non, mais Bruno a raison, ça coince beaucoup là-dessus. Effectivement, l'expression de domaine partagé qu'a employé Barnier a beaucoup énervé Macron. Mais en même temps, il faut quand même dire, tout le monde joue des jeux quand même très bizarres. Parce que Emmanuel Macron, quand il parle, quand il dit, ou qu'il fait savoir, qu'il veut un gouvernement d'union nationale... Mais ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, union nationale, à partir du moment où la gauche a refusé. Donc, on ne comprend pas très bien. On se dit, est-ce que c'est une exigence qu'il met en avant ? Alors,
dans le communiqué de nomination du Premier ministre, c'est marqué un gouvernement de rassemblement.
Et de rassemblement, mais même le rassemblement de toutes les forces politiques, il est déjà raté. Impossible, puisque la gauche a refusé. Elle a même refusé de se rendre à l'invitation de Michel Barnier. Donc, est-ce que c'est un argument que le chef de l'État met en avant pour se prémunir éventuellement en cas d'échec de Barnier ou de démission, etc. Je ne sais pas, mais tout ça est un peu étrange parce que Macron sait parfaitement que le rassemblement il n'est plus possible, sauf peut-être alors avec des personnalités.
Il y aura peut-être un ou deux
Manuel Valls, Ségolène Royal.
Ça ne rapportera rien.
Si on va chercher quelqu'un à gauche, ce sera quelqu'un de plus significatif, si je puis dire, qui représente. Bon, après, il y aurait Manuel Valls, Ségolène Royal, mais
ça peut pas être parlementaire.
On figure un peu. Non, mais non. Non, mais il y a des noms comme ceux de Dimigo, par exemple, qui ont circulé, qui sont plus désormais des techniciens. Mais exactement, voilà. Et parce que, attendez, Manuel Valls, c'est quand même relais. Là, on est vraiment trop dans l'aventurisme un peu particulier. Ça ferait vraiment étrange. Mais là, vous disiez sur... Moi, j'ai une nuance sur le Quai d'Orsay. Je ne crois pas du tout que ce soit le poste le plus difficile. D'abord, c'est vrai qu'il y a un affrontement un peu direct sur le tir de domaine partagé, domaine réservé. Mais, comment dire, sur les grandes lignes, ils sont d'accord. Je veux dire que la politique, le monde vu par Macron, il n'est pas très différent du monde vu par Barnier. Et encore moins les affaires européennes. D'autant plus que c'est vrai que là, pour le coup, Macron n'est pas fou. Il sait très bien qu'un négociateur, le Brexit, bien sûr, mais également les arcanes européennes, les réseaux qu'il a dans les directions générales les plus importantes, donc celles justement de la concurrence, du budget, bref, celles qui iront mettre leur nez dans les finances publiques françaises, il les connaît bien et donc il a besoin de Barnier là-dessus.
Oui. Donc,
là, il y a un nom qui circule d'ailleurs, c'est celui de Barrot hein, pour ce ministère. Voilà, c'est à comprendre quelqu'un qui est à mi-chemin. Quoi, qui est,
ouais. Bon.
Et sur le nombre de...
Je suis d'accord, mais c'est pour ça que les messages qui transpirent...
Il y a beaucoup de provoques, parce que par exemple, dans la fameuse liste, dans le nombre de noms que voulait absolument Barnier, il y a aussi un peu d'intox qui vient pas mal de chez Renaissance, parce que quelque part, ils craignent de se faire dépouiller comme au coin du bas.
Et Gabriel Attal joue un jeu très étrange.
Mais bien sûr, mais je veux dire que les ministères vraiment importants que Macron ne lâchera pas, c'est Beauvau, c'est l'intérieur.
Ça, c'est Laurent Wauquiez qui le veut.
Oui, non, mais tout à fait. Oui, mais ils n'auront pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'auront pas
Exactement.
Là, ils n'ont
pas partagé.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'auront pas, comme ça a transformé dans ce punch, ils n'auront pas Beauvau plus Bercy, enfin LR, je veux dire, plus, vous voyez, tous les grands ministères. Là, il faudra faire des choix. Et là, actuellement,
ils n'auront pas Bercy. Bercy, ce sera pour Renaissance.
Eh bien, voilà, exactement. Oui, mais c'était ça.
Je pense que Emmanuel Macron ne retoquera pas le nom que Michel Barnier présentera pour
Beauvau.
Non, non, mais là-dessus, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'auront pas l'un, ils n'auront pas les trois. Ils n'auront pas Beauvau plus Bercy.
C'est qui?
Bruno Retailleau. Ce sera lui.
Ouais. Ouais. Et a priori, ce serait 16 ministres de plein exercice, dont quand même plus de Renaissance que
déjà
de...
9
enfin, plus 16, en tout cas de EPR, Ensemble pour la République, que de
on
que
est
de
là LR, hein. En train de s'arracher les cheveux.
Oui, mais après, il faudra voir s'ils sont d'accord sur quoi.
Sur quoi?
Quelles sont leurs priorités? Comment ils abordent les questions? Parce qu'il y a quelques grandes questions qui sont sur la table. En dehors du budget et de la faisabilité d'un budget, ce qui quand même va être un exercice très difficile, il y a... qu'est-ce qu'on fait de la loi sur l'immigration? Est-ce qu'on va plus loin ou non? Il y a les lois de programmation qui ont été votées. Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on les amoindrit?
Oui. Je veux dire, Renaissance avait posé des conditions là-dessus.
Manifestement, les questions de santé ne sont pas résolues. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'été, là? Enfin, encore avant la fin de l'été, c'est une nouvelle crise dans les hôpitaux, faute de médecins, etc. On pensait que la question avait été prioritaire pendant tant d'années du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Non. Donc, vous voyez, après, ça s'accumule et ça va être assez spectaculaire et difficile. Donc, qu'est-ce qui va être sur la table, vraiment? Et est-ce qu'il y aura consensus minimum là-dessus? Personne ne le sait pour le moment. C'est-à-dire que là, on voit bien que ce gouvernement a forte coloration droite républicaine avec Michel Barnier comme chef. C'est de toute façon, il y aura une loi sur l'immigration. Il l'a déjà évoqué clairement devant les présidents des deux assemblées. Donc il y aura une loi sur l'immigration qui reprendra ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel l'année dernière et qui étaient les mesures. Et la droite républicaine estime qu'elles ont été retoquées pour des raisons
de forme.
De forme et de procédures parlementaires, pas des questions de fond. Donc ils ont l'intention de les remettre sur la table. Évidemment, ça fera rechigner l'aile gauche de Renaissance. Inversement, si Renaissance veut absolument le ministère de l'économie, donc ça va être un peu une espèce de passe-moi le poivre, je te donne le sel et ils vont essayer de répartir
les différents postes.
Cela dit, l'aile gauche, on la cherche.
Comment ?
L'aile gauche, on la cherche. Qui l'incarne ?
Oui, il avait parlé de gouvernement pluriel.
Hélène Bouche, elle serait aujourd'hui incarnée parmi les chefs de Renaissance par Elisabeth Borne, qui ne veut pas rentrer dans le gouvernement pour des raisons de cohérence, parce que si jamais la mise en cause,
bien sûr,
même partielle du texte des retraites, la mettrait quand même en difficulté. C'est pour ça qu'elle ne veut pas rentrer dans le gouvernement, parce que ça lui a été proposé.
Alors apparemment, un accord se profile. Hein. D'ailleurs, c'est une alerte du Parisien, mon cher Henri.
Oui, ça pourrait être ce soir.
Ça pourrait être ce soir, l'annonce.
Bon, enfin, attention. Hein.
Non, parce que Emmanuel Macron reçoit Michel Barnier.
Voilà, donc c'est ça pas totalement impossible. Ça peut dire aussi que le changement de méthode de Michel Barnier, qui jusqu'à présent avait quand même reçu les gens ou en tête à tête, ou en petit comité, ou sensibilité par
Fâchant
sensibilité,
un peu tout le monde.
etc. Et donc, ce qui d'ailleurs a alimenté la machine à intox, parce que chacun pouvait dire voilà ce qu'il m'a dit, etc. Là, il a invité tout le monde ensemble en les mettant un peu face à leurs responsabilités. Et surtout, en les mettant ensemble, chacun ne peut pas raconter sa propre histoire à la sortie aux journalistes. Et donc, c'est peut-être le résultat aussi de ce changement de méthode.
Oui. Pour moi, c'est moins un changement de méthode qu'un aboutissement de la méthode.
Peut-être.
Une fois que chacun a donné ses lignes rouges, a donné ses exigences, hop, vous mettez tout le monde ensemble. Et là, en effet, comme vous le dites très bien, on prend à partie et les autres sont là pour contrôler. Et donc, c'est là qu'on fait les ajustements, d'où cette alerte. En effet, si Barnier va à l'Élysée, il n'est pas totalement impossible que le gouvernement sorte plus tôt que prévu.
Oui, demain, ce soir.
Demain, oui.
Bruno,
je disais plutôt demain, je disais à la mi-journée, mais la réunion semble un peu plus courte que ce qui était prévu. Oui, donc, c'est plutôt, si elle est plus courte, c'est plutôt de bon augure.
Et
apparemment, avec un accord pour qu'il y ait des représentants du camp présidentiel. Donc, sans doute que...
Gabriel Attal qui a rendu compte de la réunion à ses troupes à Renaissance, et en effet, était plutôt favorable. Quoi.
Donc ça veut dire quoi? Qu'il rentrerait? Gabriel Attal irait, lui, au gouvernement, ou il se réserve pour 2027, comme on a l'air de le lire dans le point?
C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un équilibre dans les personnalités. Il y a une jolie formule employée par un des ténors de l'ex-majorité qui dit si on fait rentrer les alligators LR, il va falloir garder les alligators macronistes. Sous-entendu, si vous faites rentrer Retailleau, Wauquiez et quelques autres LR, il faudra garder Darmanin, Le Cornu, voire Attal.
C'est difficile. Celui
donc
qui avait
après,
raison,
je ne sais pas comment ça
raison,
va se passer.
C'était François Bayrou en disant il ne faut pas qu'il y ait de sortants. Il faut,
soit
une équipe
ça,
totalement
nouvelle. Ça, c'était sa ligne
rouge
aussi.
Il faut incarner le changement. Donc, on va voir si le changement est
à petite dose. C'est sa recommandation.
Le changement est à petite dose ou bien si, au contraire, il y a...
Bayrou ?
Oui.
Bayrou, lui, il a cru que ça ne marcherait pas et que son heure viendrait. Là, manifestement, il ne vient pas.
Juste sur la question sur Attal, ce serait franchement baroque qu'il vienne. D'abord, ce n'est pas son intérêt politique. Là, il a besoin de se refaire une image. Il vient de passer 8 mois à Matignon, 8 mois, comme le lui a rappelé
Michel Barnier. Surtout le poids d'un président de groupe,
exactement.
C'est
incomparable. Mais bien sûr.
Avec un poste de ministre.
Et en plus, il n'a pas renoncé au parti. Et surtout, vous imaginez, lui, entrant dans un grand nom, après la passation de pouvoir quand même assez punchy qu'il y a eu entre lui et celui qui serait son premier ministre, Michel Barnier. Non, c'est pas... Comment dire? En plus, il a bien dit qu'il a maintenant, je crois qu'il a dit qu'il a un récit. Il a un récit à confier. On voit bien.
En politique, on a déjà vu des choses. Hein. Raffarin et Sarkozy ont cohabité après.
Après combien de temps? Non, mais surtout là, quel serait son intérêt?
Il est même revenu dans le gouvernement après avoir été.
Mais pour revenir,
ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'on est quand même de plus en plus détaché d'une réalité qui est difficile. Et la réalité ne semble pas prise en compte par les acteurs politiques. Ils sont là dans leur petit jeu. Le meilleur exemple, c'est en effet Gabriel Attal qui nous sort une grande interview dans Le Point pour dire « j'ai une histoire à construire avec les Français ». Oui, on arrête tout là et on s'incline et on écoute parce que l'histoire va se construire avec les Français. Non, mais je veux dire, c'est alors qu'il sort de 10 mois de gouvernement alors ça lui a valu la sympathie du public, certes.
Il est pas resté assez longtemps pour être détesté.
Mais en même temps, on voit pas quelle preuve il a apporté que nécessairement on doive construire une histoire avec lui. Ouais. Donc il y a ça, il y a Wauquiez et ses embarras présidentiels, il y a la séparation. Il y a Édouard Philippe aussi qui
a
posé sa candidature. Il y a la gauche qui est toujours dans l'embarras parce que la gauche est toujours prisonnière de Mélenchon. Je veux dire, tout ça n'est pas vraiment la réalité que devrait saisir à bras-le-corps un gouvernement ou des responsables politiques pour traiter les problèmes du pays. C'est tout. C'est pas...
Carole, est-ce qu'il a intérêt, Laurent Wauquiez, alors qu'il est présidentiel? Il ne l'a pas dit... textuellement, mais bon, on le comprend que c'est un des candidats de la droite à la présidentielle. Il a intérêt aller, par exemple, à Bercy, par exemple, ou alors pas le ministre de l'Intérieur.
Lui, il voudrait le ministère de l'Intérieur.
Oui, mais apparemment, Macron ne lui laissera pas les clés.
Il voulait le ministère. Attendez,
Barnier, à mon avis.
Et il a compris.
Peut-être que ça réussira, j'en sais rien.
Je pense, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu un changement total, enfin, un virage à 180 degrés dans la position des Républicains, qui à l'origine expliquait qu'il y aurait sans doute un soutien, mais sans participation aucune.
Et puis, eu le pacte législatif après, quand même, c'est un petit pas.
Oui, mais enfin bon, et puis au fil des semaines, on a vu qu'il changeait de position. Je pense qu'il y a quand même un petit effet Sarkozy là-dedans, parce que on sait que Sarkozy plaide depuis fort longtemps hein, pour une véritable coalition des Républicains avec Macron. Ça n'a jamais fonctionné.
Mais il fallait la faire en 2022.
Mais c'est pas vraiment lui qui a poussé Barnier.
Non, mais en revanche,
il a pas poussé la solution Barnier.
Il pousse quand même les LR à participer.
Ah oui, mais il n'était pas à l'origine de Barnier. Il y en avait vu d'autres, lui, mais pas sûr.
Et non, mais ils sont pas. Enfin, c'est pas vraiment la même mayonnaise, on va dire.
Non.
Oui. Et donc, je pense que Wauquiez est insensible. Il s'est bien rendu compte quand même que, au fond, s'il y a tous ces, enfin, une partie de ses camarades qui en plus occupent des postes importants. L'histoire, elle est peut-être encore
on était quand même à mi-chemin.
Et c'est faire preuve de responsabilité aussi aux yeux des Français d'y aller.
On était dans un parcours à mi-mandat pour Emmanuel Macron, de plus en plus à droite, en vertu du commandement sarkozien qui est « le pays est à droite, donc tu dois gouverner à droite ». Simplement, où sera le centre là ? Barnier est un homme conservateur. C'est un homme conservateur, mais qui nous parle de justice sociale. C'est un conservateur, mais qui est modéré, qui est ouvert, qui n'est pas sectaire. Donc, est-ce que le centre de gravité du gouvernement sera encore un peu plus à droite ? Dans la gestion de la crise financière, ça va compter énormément. Ou bien est-ce qu'il y aura un équilibre quelconque ? C'est ça la grande question pour les Français. Et le vote qui est intervenu au mois de juillet n'est pas uniformément à droite. Le groupe central, celui des macronistes, est partagé. Il n'est pas uniformément à droite. La gauche est arrivée en tête. Voilà, et ça c'est une équation, je ne sais pas dans quel sens pèsera le président de la République qui est maintenant censé être dessaisi par rapport à son Premier ministre.
Mais Henri, est-ce que les vrais ennuis commencent au moment où le gouvernement est...
Bien sûr.
Ah bah oui, clairement, mais d'ailleurs, y compris pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le programme, non pas parce qu'il n'a pas encore fait sa DPG, sa déclaration politique générale, qu'il fera, je crois que c'est déjà annoncé pour le 1er octobre, mais tout simplement parce que pour l'instant, elle n'est sans doute pas établie. C'est que, et oui, ça commencera les difficultés parce qu'on le voit bien. Je veux dire que les difficultés de la France aujourd'hui sont abyssales. Et c'est pour ça, j'en reviens quand même à ce qu'on disait un petit peu en début d'émission, c'est-à-dire que les jeux politiciens, les postures de tel ou tel, les petites phrases, hein, comme a dit Barnier, qui alors lui, pour le coup, c'est le politique, très frustrant hein, pour des journalistes politiques, parce que c'est pas du tout monsieur petite phrase, lui. Bon, eh bien, c'est vrai que c'est vraiment pas à la hauteur de la situation, et parce qu'en effet, c'est entre le budget. Regardez par exemple la Nouvelle-Calédonie qui redevient
et la Martinique.
La Martinique avec les problèmes de la vie chère, et d'ailleurs deux problématiques différentes, parce que la Martinique c'est la vie chère qui est extrêmement difficile à régler, mais en plus en Calédonie il y a vraiment un phénomène existentiel, il y a vraiment un processus là qu'il faut traiter. Bref, partout il y a des difficultés qui sont énormes, et il est vraiment temps de cesser avec les petits jeux. Juste un mot quand même sur Wauquiez et l'Intérieur. Je pense quand même qu'il défend sa pierre à pied. Il veut vraiment y aller. Alors, si LR cède sur le nombre de ministères de plein exercice qu'il pourrait avoir, donc en effet, pas une accumulation de grands ministères, peut-être qu'en compensation, il y aurait bel et bien à la fin l'Intérieur pour Wauquiez. Vous parliez d'effet Sarkozy. Là aussi, il y a un peu un effet Sarkozy. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, c'est considéré comme quelque chose qui vous porte chance pour aller après à l'Élysée.
C'est vrai.
Vous montrez ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Et là, en plus, en étant aligné sur un Premier ministre Barnier qui, lui, est
pour l'instant, ça n'a porté chance qu'à une seule personne.
Oui, les autres,
ils ont essayé de copier le modèle, mais...
Oui, mais Sarkozy, ça arrête.
Non, encore un président ancien. Bruno, qui est le dernier Manuel président Valls à droite. Manuel Valls a échoué.
Oui, c'est vrai, ça marche.
Cazeneuve a essayé.
Non, mais
pour l'instant, c'est...
C'était pas de droite, cela. C'était pas de droite.
Un mot, Bruno, sur ce qui nous attend sur les impôts, puisque ça a été la polémique de la semaine, puisque la semaine dernière, c'était l'immigration. Est-ce que forcément, il y aura une augmentation des impôts, soit
Je pense que d'abord, il faut rattacher ça à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, le débat sur la trajectoire financière de la France, qui est surveillée de près, qui est même
par les marchés, ouais.
Qui est surveillée de près par les marchés, mais surtout par la Commission de Bruxelles, puisqu'il y a une procédure contre la France pour déficit aggravé. Donc, de toute façon, le Premier ministre, une fois son gouvernement en place, va se rendre, ou son ministre de l'économie et des finances, à Bruxelles pour négocier avec Bruxelles, puisque la France n'a pas présenté comme elle devait le faire, elle devait le faire en principe le 20 septembre, sa trajectoire financière pour les trois prochaines années. Or, on voit bien que cet élément va être clé pour la situation économique et financière du pays, dont la dette est très importante. Et ce qui se dit, c'est qu'en gros, Michel Barnier pourrait aller négocier un allongement de la durée pour rejoindre le seuil des 3% de déficit du PIB pour 2029 plutôt que 2027, qui était la trajectoire initiale négociée par Bruno Le Maire en sortant. Michel Barnier ayant en privé des mots très durs contre Bruno Le Maire, avec cette expression, puisque Bruno Le Maire l'a employé en partant en disant qu'il avait tout donné, Michel Barnier en privé dit il a vraiment tout donné et donné.
Il ne reste
donc,
plus rien, il a cramé la caisse.
Et du coup, cette trajectoire-là, une fois posée, va permettre au Premier ministre de voir comment lui boucle son budget. La grande question, c'est celle des impôts. Et c'est là où il a fait peur à tous ses interlocuteurs, puisqu'il a quand même testé l'idée. Mais Michel Barnier, en fait, en recevant tout le monde, il a posé des cailloux sur l'immigration, et sur les impôts. Il n'a pas exclu, notamment en disant à l'Assemblée, il faudra me soutenir quand je vais devoir augmenter les impôts. Et c'est vrai que pour un Premier ministre de droite, il y a quelque chose d'assez étonnant.
Et pour des ministres.
Mais l'impôt sur les revenus, comme l'impôt sur les sociétés, rien n'est exclu, même si le fidèle Alain Marleix, qui était le président du groupe LR, mentit cette donne. Il n'empêche, c'est quand même...
Olivier
Marleix. Ouais. Alain était son père. Il n'empêche, on voit bien que pour boucler ce budget, il va falloir trouver des ressources. Est-ce que ce seront des économies budgétaires, mais on sait que ce ne sera pas suffisant. Est-ce qu'il faudra passer par...
Ouais, le volet recettes, le volet dépenses.
Du rendement immédiat avec des impôts à rendement rapide, comme l'impôt sur le revenu. Je pense que les Français...
En tout cas, tout le monde lui rappellera ce qu'il a dit lors de la passation de pouvoir, c'est que je veux plus de justice fiscale. C'est à ça que tout le monde va se
référer. Justice fiscale en France, on sait ce que ça veut dire. Oui. Bah, traduire pour nos téléspectateurs, justice fiscale, ça veut dire augmentation des impôts.
En principe.
Ouais. Pas pour tout le monde.
Mais ça veut dire augmentation des impôts.
Ça peut aussi vouloir dire que tout le monde doit payer l'impôt sur le revenu.
Cela dit, si vous excluez toute augmentation des impôts, quel qu'il soit, parce qu'il y en a qui sont peut-être augmentables. Je parle des impôts sur les profits des très grandes entreprises, etc., qui ont été évoqués, même à droite, ainsi de suite.
Ouais.
Même par Barnier. Vous vous retournez vers la dépense. Donc, vous diminuez les dépenses. Où ? Moins de juges, moins de policiers, moins d'armées, moins d'enseignants.
C'est infaisable. C'est décaler les lois de programmation.
Si vous faites tout reposer sur la baisse des dépenses, c'est infaisable.
On retrouve Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux et on part aux États-Unis pour le monde, dans le monde impitoyable des fake news. Bon, pas de générique, c'est pas grave. On va faire avec. Bonjour ma chère Véronique.
Bonjour.
Donc on va aux États-Unis avec la campagne, on est en pleine campagne électorale.
Je me suis dit que ça allait vous changer un peu, qu'on allait parler de quelque chose d'autre tout d'un coup, tant qu'on attend une réponse. Et donc on va parler des Américains et on va parler des fake news, parce que vous savez qu'au Kremlin, il y a deux vidéos qui ont été extrêmement partagées et extrêmement vues, qui ont été produites pour déstabiliser, décrédibiliser Madame Kamala Harris. Il est maintenant reconnu que ces deux vidéos viennent d'un groupe bien spécifique allié au Kremlin. La première des vidéos, c'est on voit un groupe de partisans de démocrates qui attaquent un seul partisan de Trump, et donc qui montre qu'ils ne sont pas courageux et que les partisans de Trump sont des victimes. Et puis il y en a une autre qui a été la plus vue. Je vais juste vous montrer une capture d'écran parce qu'on ne va pas relayer cette vidéo. Mais en gros, il est dit dans cette vidéo que Kamala Harris aurait causé en 2011 la paralysie d'une jeune fille dans un accident de voiture. Après, elle se serait enfuie. Donc évidemment, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est... typiquement ce qu'on appelle une fake news. La vidéo a été retirée, elle a été, comme on le voit là, dénoncée par beaucoup. Alors je vous l'ai traduit, voilà, c'est un message en anglais qui dit « Cette histoire de délit de fuite de Kamala Harris est fausse. Cette vidéo vient apparemment d'une fausse organisation de presse à San Francisco. Elle a été partagée des centaines de milliers de fois par une personne nommée Alicia Brown. Bref, en disant « Arrêtez de la partager, il faut la retirer. » Elle a été retirée de plein d'endroits, mais vous imaginez bien que si je n'ai montré qu'une capture d'écran, c'est qu'on la trouve encore. Donc c'est toute la complexité de retirer des deepfakes, de retirer des fausses informations, et elle a été plus que vue. Alors après, l'une des façons pour faire en sorte qu'on ne croit pas des fausses informations ou que l'on se méfie, c'est d'essayer d'éduquer l'opinion. Alors pour ça, il y a eu plein de méthodes. Alors, je vais vous montrer une vidéo, on passera peut-être pas le son, mais vous allez comprendre en regardant, vous voyez, on voit Monsieur Trump qui tient une arme, qui est arrêté, on voit après Madame Kamala Harris qui tient une arme, qui elle-même est arrêtée, on voit après Monsieur Elon Musk, et ainsi de suite. Donc je vous laisse apprécier. On va dire que ces tentatives de démonstration des risques de manipulation, des images se multiplient, elles sont pas toujours très efficaces, mais là elle est assez efficace parce que c'est tellement énorme que ça passe, que beaucoup de gens l'ont regardé, et c'est très bien fait parce qu'en plus c'est fait par des professionnels de l'image, et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre à tout le monde, comme tous les camps sont dedans, qu'effectivement il ne faut pas se fier aux images. On a même Poutine qui est arrêté, vous voyez, enfin bref.
Ça arrivera peut-être un jour. Hein.
Ça arrivera peut-être un jour. Et là on a Obama qui est avec une arme. Bref, et c'est sans doute la meilleure des façons, parce que quand vous supprimez une vidéo, ça ne fait que renforcer le complot. Bon, on se doute que le pape, voilà, mais globalement, c'est une façon, donc ce sont ces deux artistes, c'est une façon de mobiliser l'opinion, ça a pas mal fonctionné. Pour autant, il faut vous dire que la campagne américaine, c'est quand même très particulier. Il y a même des parodies qui sont proclamées comme parodies. Et en particulier, on va aussi regarder, sans forcément mettre le son, cette parodie sur Kamala Harris. Il est acté que c'est faux, mais elle a été vue plus de 60 millions de fois. Et en fait, même si on dit que c'est faux, même si on dit que c'est de la propagande, même si les républicains disent oui, c'est de la propagande, et que les démocrates le dénonce, mais en fait, ça passe et c'est vu, et 60 millions de fois, les messages passent. Donc c'est pour vous dire que les fake news sont retirées quand on dit pas que c'est une fake news, mais là, c'est assumé. Donc cette vidéo, elle est partagée, repartagée, et elle fait passer des messages. Donc c'est extrêmement compliqué. Voilà, vous trouvez que la politique française, c'est compliqué, bah dites-vous qu'aux États-Unis, c'est encore plus compliqué. En tout cas, les images, c'est un vrai sujet. Et puis, pour vous dire, après, vous avez ce qu'on appelle les vérité alternative, qui était la spécialité de M. Trump. Eh bien, pendant le débat, figurez-vous que Mme Kamala Harris a dit qu'il n'y avait plus de troupes sur le terrain à l'étranger. Je vous laisse regarder, là, cette fois-ci, la vidéo qui a été prise pendant le terrain. Voilà.
There is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world. The first time this
happened. Wait, what?
But let's understand.
So where the fuck are we right now?
Donc en fait, le sujet, il est que ça n'est pas faux, c'est une vérité alternative. Ça a plutôt servi le camp, évidemment, vous imaginez bien, des républicains. Elon Musk l'a énormément partagé. Évidemment, comme c'est Elon Musk, il a expliqué que, voilà, trois petits points et il partage la vidéo. La réalité, elle est plus complexe. C'est qu'en fait, il n'y a pas de mission de combat sur le terrain. Elle n'a pas dit qu'il n'y avait pas de mission. Enfin, elle a dit qu'il n'y a pas de mission de combat. Mais c'est toujours pareil, les vérités alternatives. Et en plus, le fait que les uns et les autres aient dit « mais vous avez détourné, c'est une vérité », n'a fait que nourrir les républicains qui sont sur ces notions de vérité alternative. Et qui plus est, le gouverneur de Californie a dit qu'il voulait retirer cette vidéo qui circulait des militaires qui se montrent. Donc ça n'a fait que renforcer la réalité du sentiment de, voilà, on nous manipule, les élites racontent n'importe quoi, et il y a bien un complot au plus haut sommet de l'État. Donc pour vous dire que quand on parle de fake news et qu'on explique que les choses doivent être retirées, que les plateformes doivent modérer, que en fait il y a le vrai et le faux, c'est beaucoup 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 plus compliqué que ça. Et ça nous promet des heures sympathiques. Voilà.
En tout cas, Elon Musk s'est couvert de gloire là.
En
déclarant. Et comment personne n'a eu l'idée de tuer Kamala Harris après la tentative d'attentat.
Ah non, mais là maintenant c'est la porte ouverte à tout. Je me suis dit que ça allait vous changer les idées, pas forcément vous remonter le moral, mais vous changer les idées avec la campagne française.
Oui,
mais,
il y a pire.
Mais franchement, là je vous ai fait juste un tout petit sélection pour vous expliquer la réalité du truc. Mais si vous saviez, j'aurais pu vous tenir une petite heure tranquille avec des jolies petites vidéos.
On a vu ça, vous étiez parti pour une heure. Merci beaucoup, chère Véronique. Et merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission. Merci à tous. Donc, La Tribune dimanche. Et puis Le Parisien, demain, si vous avez la une.
Alors, pour l'instant, c'est la Nouvelle-Calédonie.
Ouais.
Bien évidemment, si
ça peut changer
quelque chose,
ça peut changer.
Voilà.
Par exemple.
Ça peut être ce soir. Hein. Restons sur nos gardes. Merci beaucoup. Merci à tous.